Alors, c'est ça, la baleine à bosse, vous vous en rappelez? Elle nous a éblouis, hein? nous a procuré beaucoup de plaisir. C'était l'été, il faisait chaud, puis on avait un show. Et puis, à un moment donné, bang, elle est décédée. Et on a été très tristes de ça. Et là, le rapport de la nécropsie, c'est comme ça que ça s'appelle, a été consulté par le journaliste Alexandre Shield du Devoir. Et là, on va aller rejoindre Robert Michaud, le coordonnateur du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Bonjour, M. Michaud.
Bonjour, M. Drainville.
Parce que là, le rapport n'est pas concluant. On s'est dit peut-être qu'elle avait été heurtée, la baleine, par un navire, mais on n'est pas certain que c'est ça qui a causé sa mort, finalement.
Effectivement, c'est une des conclusions importantes du rapport. Lors de l'examen, on dit, nous, macroscopique, c'est-à-dire quand le docteur Stéphane Lair et son équipe de la Faculté de médecine vétérinaire ont ouvert l'animal à Sorel, il y avait des signes qui suggéraient qu'il y avait eu une collision. Il y avait un hématome et un épanchement de sang assez prononcé.
Oui.
Ce qui avait mené Stéphane et son équipe à dire, bon, mais on soupçonne une collision.
Oui.
Et l'examen microscopique, c'est-à-dire là, pendant la nécropsie, ils prélèvent toutes sortes de tissus, ils s'en vont en laboratoire, ils regardent ça, puis ça ne leur permet pas de conclure si ce symptôme-là qu'on observait visuellement, qui était apparent, si c'est survenu, par exemple, avant ou après la mort de l'animal. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de conclure, malgré que ça demeure une de leurs hypothèses, mais ils ne peuvent pas conclure que l'animal est mort des suites d'une collision.
Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode-là, M. Michaud?
Bien, vous disiez, M. Dréville, en entrée d'entrevue, qu'elle nous avait impressionné, elle nous avait fait dérider. Hein, on se rappelle, le mai-juin, c'était une période un peu difficile. On était en plein confinement encore. Il y a beaucoup de gens qui sont venus la voir. Elle nous a éblouis, c'est vrai. Moi, je vous dirais...
Quand elle sautait, là, elle nous a fait du bien au moral. Tu sais, c'était... Hein?
C'était impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont venues l'observer. C'était tout un spectacle. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je vous dirais que pendant toute cette période-là, j'étais très inquiet parce que c'est pas une place pour un orque à la bosse. le Saint-Laurent, c'est un endroit fabuleux. On accueille dans le Saint-Laurent là, plus d'une dizaine de ces grands géants, espèces de ces grands géants, des orques à la bosse. L'été dernier, il y en a près d'une cinquantaine d'individus différents qui sont venus dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent au large de Tadoussac. C'est un endroit fabuleux pour ces animaux-là. Ils viennent en majorité pour se nourrir, mais le voyage qu'a entrepris cet individu-là, qui était une jeune femelle, on pense de 2 à 4 ans maximum, le voyage qu'elle a entrepris, c'est un voyage périlleux. C'est pas un endroit pour un orque à la bosse, le vieux port de Montréal. C'était spectaculaire.
À cause de quoi? De l'eau douce, c'est ça?
Bien, l'eau douce, et d'ailleurs, et ça nous a étonnés, mais c'est la deuxième hypothèse que le docteur Lair a retenu comme cause de mortalité, c'est l'exposition prolongée à l'eau douce a favorisé le développement d'une colonie d'une espèce de champignon qu'on appelle des zoomycètes. Ceux qui l'auront observé de près, leur orque à la bosse, on voyait que dans les derniers jours, elle était couverte d'une mousse brunâtre. C'était pas très joli, mais quand on a fait la nécropsie, on voit que cette espèce de champignon, en quelque sorte, a créé des lésions dans la peau du orque à la bosse et on voyait comme des infiltrations. Quand on fait une coupe de la peau, c'est pas très beau, ça sent pas très bon, mais ça nous informe de toutes sortes de choses. Et on voit que cette infection-là, elle a comme percé le derme et a probablement ou possiblement engendré un désordre physiologique. Ça, c'est une autre hypothèse que le docteur Lair retient, une collision ou une infection cutanée étendue qui aurait entraîné un désordre physiologique. Mais ce qui est clair pour Stéphane et son équipe, c'est que l'animal est probablement mort assez soudainement.
Oui.
Parce que juste quelques jours avant de retrouver la carcasse, on avait fait un suivi attentif, on avait des bénévoles qui suivaient l'animal là, toutes les heures de clarté, on notait son comportement, combien de fois elle saute, comment elle nage, à quel rythme elle respire, et elle n'avait pas montré de signes importants d'affaiblissement, elle n'avait pas montré de signes d'amaigrissement non plus qui étaient vraiment importants. Quand on a regardé son état de chair, c'est pas un animal qui était dénutri. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé soudainement et les deux hypothèses qui sont les plus cohérentes avec les observations que Stéphane et son équipe ont faites, c'est vraiment une collision ou un désordre physiologique suite à une infection vraiment massive là, de ces petits champignons.
En tout cas, je veux dire en conclusion, elle nous aura fait réaliser à quel point la diversité marine est une très grande richesse dans notre fleuve et qu'il faut en prendre soin. Et en ce sens-là, elle n'est pas venue et elle n'est pas morte pour rien. Hein? Je pense qu'à elle seule, cette baleine-là a contribué à notre éducation, Robert Michaud.
Ben, je peux pas être plus d'accord avec vous, M. Drainville.
Hein? En tout cas, regarde, on va espérer qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont faire le même voyage parce qu'on craindrait pour elles. On va espérer qu'elles vont continuer à se tenir autour de Tadoussac où on peut les observer avec beaucoup d'amour. Robert Michaud, coordonnateur du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Bravo pour votre travail, Robert. Vous êtes un formidable vulgarisateur. Merci beaucoup.
Merci, au plaisir.